Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, il est quasi midi, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission qui met en avant les talents français, ceux qui innovent, qui font preuve de créativité, qui font bouger les lignes tout en maintenant la fabrication sur le sol français. Tout à l'heure, nous vous ferons découvrir une start-up lancée en 2016 qui vous propose de créer votre meuble sur mesure via une plateforme en ligne et sous une dizaine de jours, votre création est livrée chez vous sous forme de kit à monter. En 5 ans, ils ont su s'imposer auprès d'une grande enseigne française dans ce secteur. Connaissez-vous l'association Façon de Faire ? C'est un réseau d'entreprises du textile et de la mode Made in France qui s'est constitué sous un autre nom dans un premier temps, pendant la crise sanitaire, quand nous avions besoin de mobiliser toutes les forces textiles du pays pour fabriquer des masques. Aujourd'hui, ce réseau continue d'influencer le secteur de la mode et du textile d'une manière plus large. De quelle façon ? Eh bien, nous allons poser la question à notre premier invité.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Léa-Marie.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de Façon de Faire. Racontez-nous justement comment s'est créé ce mouvement qui rassemble près de 120, c'est ça ? 120 ateliers ?
120 adhérents, 120 ouais. ateliers, confectionneurs, ouais. filateurs, tricoteurs, tisseurs. Alors comment on a créé ce groupement ? On est tous confinés en mars 2020 et on se dit qu'il faut se mobiliser pour fabriquer des masques, qu'on va avoir un vrai souci d'approvisionnement. Et on crée un petit groupe de travail le soir à 17h, tous les jours, pour essayer d'organiser la filière, accompagné du comité stratégique de filière mode et luxe au démarrage. Et Guillaume Gibault nous rejoint dans cette aventure quelques
président
jours.
Fondateur du Slip français, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Exactement. Et on se met au travail pour organiser la filière. Moi, à ce moment-là, je suis directrice de l'habillement à l'Institut français du textile et de l'habillement. Et ça fait sens. Donc on est un groupe de 5 à se mobiliser. Et puis, à travers un petit drive partagé, on a 50, 200, 100, 500 et puis 1400 ateliers qui se mobilisent. Et on fabrique des masques, on organise toute la filière pour pouvoir faire des masques qui protègent l'autre des microbes, du virus, de ce fameux virus. Et puis les choses se mettent en route avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on se rend compte que finalement, dans les moments compliqués, la filière réussit à se mobiliser.
Et alors, on avait reçu Guillaume Gibault, justement, donc le président fondateur du Slip français et président de Façon de Faire. On l'avait reçu à ce micro juste après la crise, ou pendant la crise sanitaire, et il nous avait dit, mais on a redécouvert plein d'ateliers.
Exactement. Moi, à ce moment-là, je ne travaille plus en France, puisque le métier que j'ai appris à l'école part avec la DELOC, la levée des quotas, de 2005 à 2008, et il y a de moins en moins de choses. Et du coup, je décide de revenir travailler vraiment avec des industriels français en 2019 avec l'IFTH. Et effectivement, je découvre une filière qui n'est pas hyper en forme, mais qui a quand même tenu bon avec le luxe. Et finalement, quand on commence à se mobiliser, à devenir visible, on a plein d'ateliers ouais. qui nous appellent, qui disent « moi j'ai des capas ».
Qui voulaient participer à l'effort de guerre.
Qui voulaient participer à l'effort de guerre. On est vraiment dans l'effort de guerre où les enfants sont à la maison. Et il faut quand même aller travailler, il faut s'organiser et on a envie, malgré la peur, parce qu'on ne connaît pas ce virus à ce moment-là, de venir fabriquer des masques. Voilà, on sent vraiment une mobilisation très très importante de se sentir utile.
Et alors aujourd'hui, quelle est la raison d'être de Façon de Faire, qui a juste changé de nom, pour justement dynamiser ce Made in France ? Comment vous procédez ?
Alors comment on procède ? Dans ma vie d'avant l'IFTH, j'ai travaillé longtemps pour la distribution, grande distribution, textile, toujours. Et j'avais comme client les magasins U. Et je dis à Guillaume, on sait faire des masques, mais surtout notre métier de base, c'est de faire des vêtements. Entre-temps, je reprends la direction de production du slip français. Et là-dessus, en janvier, quand j'arrive au slip, en parallèle, j'écris au président de U et je lui dis, voilà, moi, je vous connais bien, j'ai travaillé pour vous pendant 20 ans. On a remonté une filière française avec ce groupement. On aurait envie que vous puissiez nous suivre. Vous le faites pour l'alimentaire, vous saurez le faire pour le textile. Il nous a fait confiance et là, on a monté une collection, printemps-été 2022, hommes, femmes, enfants.
Entièrement fabriquée en France.
Entièrement fabriquée en France, mais entièrement, c'est vraiment du tissage, ouais. tricotage, jusqu'à la confection, à l'étiquette de composition, à la cartonnette, tout, à l'entrepôt d'insertion dans lequel on a préparé les commandes. Et les produits sont en magasin aujourd'hui. Donc, ils nous ont suivis sur printemps-été 2022, on est ravis. On a reconduit l'histoire sur AH, donc automne-hiver 2022, et on est en train de préparer le printemps-été 2023. Donc voilà, c'est un bel engagement. Et
mais alors concrètement, justement, la plateforme, comment elle fonctionne ? Donc c'est une plateforme de mise en relation.
Alors il y a effectivement ce projet qui est des projets de mise en avant de notre plateforme. Mmh. Et en parallèle, on a effectivement créé le mythique entre les confectionneurs, l'industrie et puis les donneurs d'ordre, les distributeurs. Et nous, on a cette plateforme qui peut, vous arrivez dessus, vous dites, bah voilà, aujourd'hui, je voudrais faire un t-shirt en France. Comment je fais? Quel est votre besoin? On identifie tout sur la plateforme. Et en face, il y a quelqu'un qui va dire, bah moi, je sais faire à ce prix-là, dans ces conditions-là. Et nous, on a fait la mise en relation. Voilà, on est vraiment une plateforme de mise en relation. Quand on a des projets un peu plus costauds, comme celui de U ou d'autres demandes en parallèle, alors nous, on est dans l'accompagnement, dans l'expertise. On vient dire, bah voilà, pour que ça puisse marcher, on va industrialiser le produit de cette façon-là. On n'écrit pas un produit en France comme on l'écrit en grand import.
Ouais.
C'est important de faire la différence, de se dire qu'aujourd'hui, en France, la main-d'œuvre, elle coûte plus cher que la matière première, ce qui est l'inverse à l'import. Donc, il faut vraiment réécrire le produit, réapprendre aussi aux marques à réécrire les produits.
Oui, et raconter une histoire.
Et
expliquer d'où vient le produit, comment il fait vivre tout un territoire. Il permet de maintenir des savoir-faire sur place. Donc,
et de créer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de jeunes qui ont envie de faire de la couture. On en voit très peu. Moi, à 14 ans, je suis allée en BEP couture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gamins de 14 ans, ils disent « je vais aller en BEP couture »
Il faut redonner ce côté un peu séduisant. Il faut séduire, en fait.
Séduire. Et puis, c'est de l'industrie. L'industrie, c'est quand même hyper important dans notre pays. On parle de relocalisation, on parle d'un plan de relance. Alors, on est en plein dedans, voilà, dans cette mise en relation qui fait que les choses sont possibles quand c'est bien écrit, quand il y a un bon cahier des charges. Alors, c'est possible et que l'opération économique est viable.
Alors, justement, vous aviez été missionné, enfin, par Guillaume Gibault, par le gouvernement, pardon, à fournir une étude sur la relocalisation, la mode durable. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel bilan vous dressez? C'est possible? On peut faire de la mode durable?
Alors, je vais répondre au nom peut-être du groupement et puis façon de faire et puis au nom du slip français. Ça fait 10 ans que quand même le slip se donne du mal à ce que les choses puissent se refaire totalement sur le territoire. Oui, bien sûr, c'est durable. Je pense qu'il faut bien identifier son outil industriel et être en permanence dans les usines, comprendre qui on a en face de nous, leur savoir-faire et écrire le produit en fonction de ses savoir-faire. Quand on achète à l'import, comme le produit n'avait quasiment plus de valeur, alors on envoyait un produit, on voulait le même, améliorer pour personnaliser la marque, et puis ça allait bien. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas travailler comme ça. On a des outils qui sont mis à disposition, on vient réécrire, créer le patronage, concevoir pour employer le moins de matière possible, industrialiser pour qu'il y ait un coût minute et un temps du coût de fabrication qui soit moindre et un produit de qualité. Donc oui, c'est possible, il faut juste réapprendre
c'est
le
ça.
Métier.
Innover, revoir son process de fabrication. On va en parler avec notre invité juste après vous. Merci beaucoup Léa Marie.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes donc la vice-présidente de Façon de Faire. Juste dernière petite question, il y a une vraie demande aujourd'hui de la part des donneurs d'ordre, des marques, de la grande distribution. Vous sentez qu'ils se bousculent de plus en plus?
Non, il y a une énorme demande de vouloir fabriquer en France.
C'est rassurant. Merci beaucoup. Allez, on va se quitter une poignée de secondes. Juste une toute petite poignée de secondes seulement. Hein. Et on revient juste après avec une start-up qui justement révolutionne le secteur de l'ameublement. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission qui fait la part belle aux entrepreneurs qui privilégient le fabriquer en France. Lancée en 2016, cette start-up française spécialisée dans la conception du meuble sur mesure révolutionne le secteur de l'ameublement. On en parle tout de suite avec son fondateur.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Paul Normier.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes cofondateur, c'est ça, de Mobibam?
Oui, fondateur.
Fondateur. Cette entreprise qui innove dans un secteur qui est plutôt traditionnel. Mobibam, en quelques chiffres, 150 000 meubles sur mesure réalisés sur un configurateur 3D, une croissance de 60% en 2020 malgré le Covid, 30 tonnes de meubles vendus chaque mois. Vous êtes
plutôt content.
C'est une belle lancée.
Oui, effectivement. Alors après, ce contexte du Covid, on en parlait tout à l'heure avec Marie, était quand même très, très particulier. Mais oui, on est content et ce qui nous satisfait aussi chaque jour, c'est de pouvoir compter sur un engagement d'une production française, hein, puisque nos meubles sont fabriqués en Bourgogne, que ce soit nos meubles sur mesure ou nos façades de cuisine, là, c'est un nouveau projet qu'on vient de lancer. Et après, les panneaux pour construire nos meubles sont fabriqués également en France. Le bois à l'intérieur de ces panneaux vient également de France. Donc c'est quand même
c'est du 100% français. La matière première, c'est du bois de nos forêts.
Absolument.
Comment vous expliquez ce succès pendant le Covid? C'est les gens qui avaient envie de revoir leur intérieur. On se rendait compte en restant chez soi que la fenêtre méritait d'être un peu rénovée. Le meuble de cuisine, ça ne va pas trop.
Oui, je dirais que ça a validé une tendance de fond, hein, c'est-à-dire un intérêt pour le sens, pour l'éthique, pour donc la fabrication locale, et puis cet intérêt aussi pour pour l'aménagement de la maison et le fait de pouvoir le faire en ligne, hein, puisque nos solutions, elle est d'abord en ligne, même si on a pu aussi ouvrir, on a un petit showroom, par exemple, au BHV Marais. On a aussi quelques points de vente chez un grand partenaire qui est Leroy Merlin. Mais il y avait cet intérêt de refaire son intérieur et cette disponibilité totale de notre solution et de nos équipes. D'ailleurs, c'était amusant, d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, un des premiers échanges, on est dans ce moment de sidération du tout début du Covid, on a des gens qui nous contactent sur le chat et qui nous disent « Toc, toc, il y a quelqu'un ?» Oui. Ah, ça fait plaisir de se sentir moins seul. Donc, on était vraiment dans un moment où
pour les moments de détresse, on vous appelait.
Oui, on a réglé des problèmes de meubles et d'autres problèmes.
Comment vous bousculez les codes, justement, de ce secteur de l'ameublement? Racontez-nous.
Dans notre ADN, il y a l'accessibilité et il y a la prise de pouvoir. L'idée, c'est vraiment que l'utilisateur, le consommateur, puisse, via un configurateur qu'on veut le plus simple, le plus accessible possible, configurer lui-même une bibliothèque, un dressing. Donc tout ça, il va choisir au millimètre près l'ensemble de ses agencements. Et derrière, en fait, quand il clique sur « commander », ça génère un ordre de fabrication à une usine qui est totalement automatisée. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de réduire les intermédiaires et de maîtriser, d'avoir en temps réel sa conception, son prix, un délai de livraison maîtrisé. Donc ça, c'est sur la partie rangement et sur la partie cuisine qu'on est en train de lancer. Et bien là, l'idée, c'est vraiment de démocratiser une cuisine d'architecte, une cuisine très design, en utilisant des magnifiques façades qui sont fabriquées également en Bourgogne et qui vont se baser sur des caissons standards qui viennent de chez Leroy Merlin.
Donc l'idée, c'est on réduit les coûts en automatisant une partie du process, c'est ça ?
Ouais,
et en éliminant les intermédiaires. Et ça nous permet d'avoir accès à une cuisine qui nous coûterait, en temps normal, combien de fois plus cher si on l'achetait dans un magasin plus traditionnel ?
Voilà, sur la partie cuisine, parce que chez Mobibam, on a ces deux business models parallèles, le meuble sur mesure et la cuisine. Et quand on est sur la partie cuisine, donc cette cuisine design de luxe avec vraiment des matériaux un peu... un peu élitiste, hein, puisque c'est de la laque, c'est des poignées en laiton, tout ça, même les poignées sont fabriquées en France. Si vous vouliez acheter la même cuisine chez un cuisiniste traditionnel dans un point de vente, vous la payez jusqu'à 3-4 fois plus cher.
Ouais.
Donc là, effectivement, il s'agit d'être un peu astucieux.
C'est ce que disait Léa Marie tout à l'heure, hein, pour l'univers du textile également. Il faut être astucieux, quoi. Il faut innover.
Oui, et c'est vrai que ce contexte, parce que là, on a parlé de la crise du Covid, là, on traverse une nouvelle crise avec la guerre en Ukraine, est peut-être porteur pour ce genre de projet où les gens n'ont pas envie de renoncer à leur projet design et vont trouver via des astuces les moyens de les réaliser quand même. Quoi.
Oui, et c'est vrai que pour vous, vous n'avez peut-être pas ce problème des matières premières du coup, parce qu'elles sont sur le sol français, ou bien si, parce qu'il y a de plus en plus de concurrents.
Oui, malgré tout, il peut y avoir... Je vous explique, pour la question du bois, ce qui se passe, c'est qu'on a des origines de bois qui sont devenues illégales. Hein, c'est le cas, par exemple, du bois biélorusse ou du bois russe. Ce qui fait que des grosses... En fait, c'est très concentré, hein, cette industrie de la fabrication de panneaux. Tout ce qui est fabrication de panneaux en Europe de l'Est, tout d'un coup, ne peut plus s'approvisionner à l'Est. Et vient du coup s'approvisionner à l'ouest. Donc ça ferait une grosse concurrence. Alors on en souffre surtout en termes d'inflation, pas réellement en termes de disponibilité, parce qu'on a fait chez Mobibam le choix radical de matériaux haut de gamme. Donc on va dire que dans le choix de production des fabricants, ils vont privilégier ce qui a le plus de valeur ajoutée. Donc on est les derniers touchés, si vous voulez. Et ça peut expliquer que, par exemple, chez IKEA, ils ont pu avoir jusqu'à 20% de leur catalogue indisponible au cœur de la crise Covid. Et je pense qu'en ce moment, c'est aussi très compliqué pour eux.
Alors, vous nouez des partenariats avec de grandes enseignes de l'ameublement, notamment Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Quelle est justement votre plus-value? Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous avez qu'ils n'ont pas?
c'est vrai que bon, on est ensemble sur ce sujet du rangement sur mesure déjà depuis 2018. Et en fait, c'est vraiment un exemple de partenariat gagnant-gagnant. Leroy Merlin, c'est monumental. Je crois que c'est 140 points de vente en France. Ça fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais du coup, ça a les défauts de ses qualités. C'est si gros.
C'est un gros paquebot.
Exactement. Que sur certains sujets qui impliquent beaucoup de services et beaucoup d'adaptation, c'est très intéressant pour eux d'avoir un partenariat avec une petite société agile, une start-up. soit capable d'être bien
plus
en
flexible,
phase.
Hein.
Exactement, exactement.
Alors, Paul Normier, je voudrais qu'on revienne quand même sur votre parcours. Vous avez créé donc Mobibam début 2015, suite à la faillite de la menuiserie familiale. Donc, vous étiez déjà dans le secteur
J'étais même particulièrement dans celui de la porte de placard de cuisine. Vous voyez, donc là, je suis dans un retour aux sources en ce moment. Mais oui, d'ailleurs, c'est...
Vous aviez prévu au départ de reprendre l'entreprise familiale ou...
L'idée, c'était ça, ouais. Et malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'on était dans un marché qui était en perte de vitesse. C'était des portes de placard, mais c'était que sur du bois massif. Et en fait, ce genre de fabrication, nécessitant énormément de travail manuel, a été progressivement délocalisé en Asie, en Europe de l'Est, au Portugal.
Alors du coup, comment vous avez eu cette idée justement de rester dans ce secteur-là, mais d'innover ?
Oui, absolument. En misant sur le digital, en découvrant en fait ces nouvelles générations de machines avec des changements d'outils ultra rapides, du pilotage numérique, et se dire mais si on branchait ces nouvelles générations de machines avec une interface web la plus simple possible, on pourrait permettre à l'utilisateur final, au consommateur, de reprendre le pouvoir tout en maintenant une production locale. Parce qu'en réalité, l'électricité n'est pas tellement plus chère en Europe de l'Est ou moins chère en Europe de l'Est qu'en France. Donc ça n'a pas d'intérêt économiquement sur cette activité sur mesure. On est compétitif en restant en France grâce à cette automatisation.
Donc désormais, vous êtes à la tête d'une entreprise de menuiserie entre guillemets 2.0.
Oui, c'est ça, c'est même 4.0.
4.0, vous avez raison.
Exactement.
Et votre famille, elle a réagi comment du coup ? Parce que qui était dans ce secteur-là, mais plus dans ce secteur de manière traditionnelle.
Oui, absolument.
Est-ce qu'ils y ont compris quelque chose au départ ? Ou ils se sont dit, oulala, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?
Je pense qu'ils ont soutenu un peu la démarche entrepreneuriale, mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris.
Pas tout compris.
Mais le concept, ils étaient...
Mais ça marche.
Voilà. Bon, maintenant que c'est lancé, etc. Alors, ce qui est sympa d'avoir cette famille un peu avec cette sensibilité entrepreneuriale, c'est d'avoir pu échanger beaucoup avec eux sur des idées, me faire challenger. Donc ça, c'était une chance.
Et puis, vous avez des experts, du coup, autour de vous.
Sur le produit. Mais c'est important aussi, hein, finalement, c'est ce que le client reçoit à la fin. Hein.
Merci beaucoup, Paul Normier.
Merci.
Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Mobibam. Merci à tous les deux. Et merci Léa Marie également. Merci. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio CSA La France avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous poursuivez votre exploration de la Provence, si je ne me trompe pas, parce que vous étiez dans le Var déjà la semaine dernière.
Bah oui, c'est ça, Nathalie. Je suis allé me balader du côté du golfe de Saint-Tropez.
Ça va, il y a pire comme endroit.
Et en passant par le village de Coguelin, je ne me suis pas intéressé aux pipes, mais je me suis arrêté dans une conserverie de spécialité provençale. Elle s'appelle Au Bec Fin et elle s'est forgée une jolie réputation d'excellence. Et Mélissa, qui est en charge des visites, nous présente l'entreprise.
Nous sommes une fabrique qui existe depuis maintenant 30 ans. Nous fabriquons tout ce qui est soupe de poisson, tout ce qui est tartinable, anchoyade, tapenade. Ensuite, nous avons la fabrique qui se trouve juste derrière la boutique où nous produisons tous nos produits.
Et ce qui est bien, c'est que quand on vient, on peut voir cette fabrique, une large baie vitrée qui ouvre sur l'atelier de fabrication. D'ailleurs, est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe derrière ?
Alors là, ce que vous voyez, c'est la mise en pot, la stérilisation des pots. Donc aujourd'hui, ils font de l'anchoyade stérilisé. Donc vous pouvez voir la machine, la mise en pot, tout le passage.
Donc, est-ce qu'on peut décrire cette machine là ? Je vois une chaîne de conditionnement, c'est ça ?
Exactement.
Avec un tapis roulant ?
Voilà, donc ils posent les pots à l'entrée, donc sur un plateau. Et ensuite, les pots passent à travers la machine sur un petit tapis roulant où vous avez la machine du coup qui est réglée pour le dosage des pots. Là, pour la longue stérilisation, c'est 3 ans de date. Donc, c'est des produits du coup qui durent quand même dans le temps. Et après, vous avez tout ce qui est produit frais où là, vous avez la crème. Donc, forcément, la date est quand même plus courte. Donc, vous avez la yoli, la rouille, l'anchoyade, parce que vous avez également l'anchoyade en longue conservation qui existe. Et vous avez également l'anchoyade fraîche. Et là, vous avez 2 à 6 mois de date.
Cette anchoyade, elle a été préparée quand ? C'est l'anchoyade du jour ?
C'est l'anchoyade du jour. C'est automatiquement, ça part. Vous avez les cuisines en fait derrière que vous ne pouvez pas voir, hélas, avec toute la vapeur. Mais c'est préparé juste derrière. Et une fois préparé, ils mettent directement en pot.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour les auditeurs, la recette de l'anchoyade?
Alors, vous avez principalement donc des anchois salés avec du lait, ainsi que du vinaigre, de l'encre de seiche et de la fibre de bambou.
Je peux goûter?
Bien sûr, je vais vous le faire goûter.
Alors, on sent bien le goût salé de l'anchois, mais qui ne sature pas le palais. C'est une impression délicate, douce.
Alors Thibaut, je constate que dès qu'il y a des dégustations, vous n'êtes pas le dernier à en profiter. Mais il y a beaucoup de spécialités de poissons dans ce reportage. Nous, on s'intéresse aux produits circuit court, aux produits locaux.
Très important.
Il est pêché où ce poisson?
C'est vrai, la conserverie s'alimente principalement auprès des pêcheurs locaux. Et pour le produit de cette pêche, on va écouter Mélissa.
Alors, comme poisson, nous avons le saran, la rascasse rouge, la perche de mer, la vive... La rascasse, la murène, principalement des poissons de roche.
Tous pêchés donc dans le golfe?
Dans le golfe de Saint-Tropez, oui. On essaye de faire travailler principalement les artisans de Provence. C'est notre but et on veut également que tous nos produits proviennent de la région PACA.
Vous pouvez nous donner des exemples de plats qu'on fait avec ces bons poissons-là? On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais
oui.
J'aimerais en savoir un peu plus.
Alors c'est la soupe de poisson. Après, on fait également tout ce qui est soupe de dorade, soupe de moule, la soupe de favouille, qui est une soupe de crabe. On fait également de la bisque d'écrevisse, et toujours, bien évidemment, accompagné de la rouille du pêcheur.
Merci à Mélissa. Alors, si vous voulez faire cette visite d'entreprise, vous le savez, dans C'est ça la France, on met en avant les coulisses des entreprises françaises. Et si vous avez envie de goûter à l'anchoyade, il y a un site internet où vous retrouverez toutes les informations à o-bec-fin.com. Je dis pas de bêtises, Thibaut?
C'est ça, vous l'avez très bien dit.
Et la recette que vous avez préférée?
L'anchoyade.
La semaine prochaine, vous nous emmenez où ça?
On va rester dans le Var.
C'est tout? Pas d'infos?
Oh
là là, voilà. Vous êtes très mystérieux, Thibaut.
Une entreprise multimédaillée, ça sera la surprise.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Eh oui, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Pour les nostalgiques, vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. Allez, bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.